de base à notre méditation de ce matin. Alors Seigneur, merci, 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 merci de cette grâce que tu renouvelles à chaque matin, de nous permettre, Seigneur, de prendre ce petit moment pour plonger nos regards dans ta parole. C'est non seulement un privilège que nous avons, que beaucoup de nos frères autour du monde n'ont pas, de pouvoir tout simplement ouvrir la Bible, en avoir même une entre les mains, et de pouvoir la méditer sans crainte, sans risque. Plusieurs de nos frères rêvent d'avoir un jour une Bible à eux dans leurs mains. Et aujourd'hui, Seigneur, nous l'avons, et régulièrement, on se méprend sur ce grand privilège que nous avons. Alors nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci aussi pour les technologies modernes qui, en dépit de la pandémie et du confinement qui nous frappe tous et chacun, on peut quand même, jour après jour, se réunir. Si virtuellement, c'est une réunion, mais on sait, Seigneur, que pour toi, il n'y a pas de virtuel. Tu es au présent, tu es présent au milieu de la prière, de la louange, de l'adoration de ton peuple. Alors nous avons cette certitude que tu nous visites à chaque matin et que la parole qui nous est transmise matin après matin est cette parole que tu désirais pour nous aujourd'hui, une parole que tu as préparée de toute éternité. Et cette semaine, tu nous enseignes sur le psaume 150 et sur la louange qui t'est due. Alors nous prions, Seigneur, que le culte que nous voulons te rendre, que la louange que nous voulons élever vers toi, soit une des louanges, Seigneur, que tu acceptes, que tu peux recevoir, que tu agrées, parce qu'elle a été faite par ton peuple, un peuple racheté, parce qu'elle a été faite avec un cœur qui a été purifié, avec des lèvres qui ont été sanctifiées, et parce que tu te plais, Seigneur, à recevoir cette louange de ton peuple. Alors ce matin, agrée notre prière, et étends ta main sur ma sœur et sur mon frère, étends ta main sur moi-même, ouvre notre entendement à ta parole et permets-nous de saisir un peu plus ce que tu désires de nous et pour nous. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors je relis le psaume 150 pour vous et après ça je relirai le verset 3 qui sert de base pour aujourd'hui. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Et le verset 3. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Je répète. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Je vous répète que ce psaume-là est quand même le psaume préféré dans mon répertoire personnel, en dépit de bien des psaumes qui sont très célèbres et en dépit de plusieurs psaumes que j'apprécie énormément et sur lesquels j'ai déjà enseigné ou prêché. Le psaume 150 est de loin celui que je préfère et je ne peux pas même m'expliquer pourquoi, mais il vient me chercher. Alors je répète le verset 3, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Je crois que cette semaine, en étudiant ce chapitre qui pourrait sembler assez connu pour la plupart d'entre nous, on vient, lorsqu'on approfondit un peu ce texte, on vient en saisir des détails qui passent inaperçus pour un lecteur superficiel du texte. Et bien que je crois que même si on lit je baisse un volume ici, je m'excuse. Même si on lit de façon primaire ce texte, je crois qu'il est déjà, comme parole de Dieu, il est déjà une bénédiction. Mais lorsqu'on va chercher certains détails qui sont peut-être un peu plus cachés, ça nous permet d'en apprécier davantage la richesse et d'en apprécier aussi des facettes qui s'approprient, qui s'adaptent ou collent avec des situations et des contextes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Alors, deux phrases, louez-le au son de la trompette. Trois mots dans cette première phrase, le terme halal qu'on a déjà étudié depuis dimanche, qui se répète tout au long de ce psaume, qui veut dire louer Dieu, qui veut dire donc briller, resplendir, éclater. Et c'est pas briller pour nous, mais c'est briller, amener la lumière, amener l'emphase, les projecteurs, le regard, amener le côté resplendissant de la chose vers Dieu et non plus vers nous. Et louer aussi, qui nous pousse dans une des connotations du terme à agir comme un fou, donc de façon incompréhensible de la part de notre auditoire, de la part des gens qui nous entourent, mais c'est l'idée de se concentrer entre nous et Dieu strictement, d'oublier notre personne et de ne se soucier que de Dieu, et ce faisant, en oubliant ce qu'on pourrait dire de nous, en oubliant ce que les gens pourraient penser de nous, notre louange devient beaucoup plus spontanée, beaucoup plus libre et parfois même beaucoup plus intense envers Dieu. Alors les deux autres termes qu'on n'a pas vus dans cette première phrase, le son, TK, TEQA, TEQA, qui parle tout simplement d'un retentissement, d'un éclat ou d'un coup. Donc on parle ici d'un son qui est spontané et qui vient couper le silence ou couper le bruit ambiant. Et enfin le mot trompette qu'on connaît pour ceux qui connaissent un peu la culture judaïque sous le terme de chauffard. Donc SHOWPHAR, je répète, SHOWPHAR. Et quand on parle de trompette ici, on ne parle pas de la trompette comme l'instrument à vent qu'on connaît bien aujourd'hui, qu'on utilise tant en classique qu'en jazz. On a Louis Armstrong qui était probablement le joueur de trompette le plus connu, avec le visage au grand sourire et une des plus belles chansons qui a été écrite, plutôt je m'excuse, What a Wonderful World. Donc c'est souvent l'image qu'on a du trompettiste. Pour les chrétiens et ceux qui connaissent un peu le répertoire musical contemporain, un des plus grands trompettistes, tant dans le monde laïque que dans le monde ecclésiastique, c'est Phil Driscoll, qui est un de mes chanteurs préféré à la voix cassée, qui a aussi été primé à plusieurs reprises, qui est un joueur de trompette. Et ça, que ce soit Louis Armstrong, que ce soit Phil Driscoll, jouer avec une trompette qui vient donc des instruments des cuivres, des instruments à vent cuivre. Ici, on ne parle pas de cela. Le chauffard, si on le traduit en français contemporain, on parle d'une corne, et principalement une corne de bouc, dans lequel on pratiquait un orifice afin d'avoir un creux dans la corne qui avait été bien sûr prélevée et séchée. Et après ça, on soufflait dans la corne et ça faisait un bruit. Donc en français, on va le traduire par trompette, mais textuellement, le mot veut dire corne, corne de bouc. Et puis un instrument de convocation. Donc, ce n'est pas nécessairement un instrument qui est mélodieux. Ce n'est pas un instrument dans lequel, un peu comme lorsqu'il y avait la chasse à la cour, où on avait quelqu'un qui avait un cor et qui soufflait dans son instrument et qui faisait une mélodie. Ce n'est pas comme le rassemblement militaire, où on avait trois, quatre notes qu'on jouait, et au son de cette mélodie, selon la mélodie qui était jouée, ben les militaires savaient un message particulier. Est-ce que ça voulait dire de se rassembler? Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait un ennemi qui approchait? Au niveau du chauffard, c'est un bruit plus qu'un son, c'est un bruit plus qu'une mélodie qui est émise donc par cet instrument fait à base d'une corne de bouc et qui est très distinct de tout autre son, et qui était propre à la culture judaïque de l'époque. Donc, parlons tout d'abord de ce son du chauffard qui était émis et son lien avec la louange. D'abord, il faut savoir que le chauffard était soufflé ou était utilisé pour des convocations générales. Lorsque le peuple devait se rassembler, que ce soit lors du voyage et du périple d'Israël dans le désert, ou que ce soit par la suite, lorsqu'ils se sont établis à Canaan, mais que le peuple devait être convoqué à un moment donné, que ce soit au village, donc les habitants du village, que ce soit une ville où les habitants de la ville devaient se rassembler sur la place publique, ou que ce soit lors de fêtes particulières, on utilisait le chauffard pour convoquer l'ensemble du peuple. Donc, la première idée du chauffard ici, louez-le au son de la trompette, ça veut dire que le peuple était interpellé par le psalmiste, par David, à ce que lorsque le chauffard serait utilisé, que le peuple puisse se mettre à louer Dieu. Donc, il y a une idée de convocation générale à louer Dieu. Et c'est donc important d'avoir régulièrement dans nos vies d'église, des situations dans lesquelles on est convoqué tous ensemble à louer Dieu. Que ce soit dans cette première partie d'une assemblée qu'on a traditionnellement et qu'on appelle le temps de louange, certains sont devenus tout simplement des habitués de ce moment de louange. Certains l'apprécient, certains l'apprécient moins. J'ai déjà vu des gens qui arrivaient en retard à l'église tout simplement parce qu'ils n'aimaient pas le type de musique qu'on utilisait ou qu'on faisait, et ils arrivaient juste au moment de la prédication. Je peux pas dire que j'en ai vu qui quittaient à la fin de la louange parce qu'ils n'aimaient pas la prédication, mais peut-être que ça arrive aussi. Il y a peut-être des gens qui vont à la toilette puis qui restent plus longtemps parce qu'ils n'aiment pas le prédicateur. Humour à part, le chauffard était utilisé donc pour rassembler le peuple. Et c'est donc important pour nous aussi de comprendre que ce moment de louange collective que nous avons en début d'assemblée est aussi partie prenante de notre assemblée. En fait, c'est une convocation pour que l'ensemble du peuple s'unisse pour louer Dieu. Et rappelons-nous, il est très clair dans les Écritures comme quoi Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. La louange personnelle est une chose importante, et on va le voir tout à l'heure, mais la louange collective est aussi tout à fait primordiale. Un peuple, que ce soit une nation, que ce soit l'ensemble des enfants de Dieu lorsqu'on parle de l'ensemble du peuple de Dieu, mais aussi une convocation au niveau de l'assemblée locale, voire même au niveau de la famille, du cercle nucléaire, du noyau qu'on appelle donc la famille, papa, maman et les enfants. Il est important d'avoir cette convocation à la louange. Donc, et c'est un moment fixé. Ça veut donc dire que il y a dans l'année, il y a dans le cours de la vie d'une église, dans le cours de la vie d'un peuple ou d'un groupe de croyants, il y a aussi, il doit y avoir des moments que nous fixons pour dire tel jour, telle heure, nous nous rassemblons pour louer Dieu. De façon hebdomadaire, on le fait le dimanche matin en vous invitant à être à l'heure pour la louange qui commence à 10 heures. On a ce petit temps aussi où on invite même les enfants en tout début de séance, actuellement sur Internet, on les invite à venir chanter un ou deux cantiques pour débuter l'assemblée. Donc il y a ce temps de convocation qui est un moment fixé où tout le monde laisse de côté ses préoccupations, laisse de côté ses occupations, laisse de côté les choses dans lesquelles ils peuvent être impliqués sur le moment présent en disant ce moment est un moment mis à part, est un moment saint, est un moment sacré dans lequel nous consacrerons toute notre énergie, toute notre attention à la louange et à l'adoration. Donc, un moment de convocation générale, un moment qui a été fixé et un moment de rassemblement général. Ça veut donc dire que la louange collective est effectivement importante, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ne voudraient savourer que le moment d'intimité avec Dieu, et je crois qu'il y a des bénédictions dans le fait de louer Dieu de façon individuelle, de façon personnelle, séparé des autres, et il y a des bénédictions propres à cela, mais il y a aussi des bénédictions qui ne s'obtiennent que dans la louange et dans le rassemblement des saints. Rappelons-nous le psaume 133 qui nous dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Et on nous dit que c'est comme la rosée qui est répandue sur les monts d'Aaron, comme l'huile qui est répandue sur la tête de Aaron et qui descend le long de sa barbe jusque sur le pourtour de ses vêtements. Donc on nous parle donc d'une onction particulière que Dieu va déverser lorsque son peuple, lorsque ses fils et ses filles sont rassemblés ensemble et qu'ils vivent en harmonie. Et la fin du verset nous dit « Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Il l'envoie où? Il l'envoie dans ce temps, dans ce moment de rassemblement général pour louer Dieu. Donc ça, c'est la première notion, apprendre à louer Dieu. Sous convocation, tous ensemble, apprendre à louer Dieu en se rassemblant afin d'offrir un culte au Seigneur. Mais le shofar était utilisé principalement lors de deux types de rassemblements, ou trois types de rassemblements. Il était offert lorsque c'était un temps où on voulait convoquer premièrement le peuple pour les informer sur certaines situations. Que ce soit des injustices qui avaient été commises à l'intérieur du peuple, que ce soit une problématique entre certains membres du peuple qu'on voulait régler tous ensemble. Donc, on rassemblait au moment de dire ou pour dire aux gens, mais maintenant c'est le temps de venir pour parler, pour discuter, pour discourir et régler des situations. Donc, un temps où on se rassemble pour parler, pour instruire, pour enseigner. La deuxième occasion où on soufflait le shofar, c'était effectivement pour des rassemblements festifs. Lorsqu'il y avait les grandes fêtes en Israël, il était coutume d'utiliser le shofar qui était le signe indicateur de voici le temps de célébration commence. Donc une raison festive. Donc je louais Dieu dans une période d'enseignement, dans une période de discussion. Je louais Dieu aussi dans une période de festivité. De surcroît à cela, le shofar était aussi utilisé par la sentinelle qui était sur les murs de la ville et qui regardait si l'ennemi arrivait. Lorsqu'un danger se présentait, on se mettait à souffler le shofar et là, les hommes savaient qu'on devait rentrer à l'intérieur des murs de la ville, fermer la porte et aller prendre les armes et se mettre au guet sur la muraille pour attendre l'attaque de l'ennemi et pouvoir répondre en défendant la ville et en combattant l'ennemi. Donc c'était un rassemblement d'enseignement, un rassemblement pour la fête, mais aussi un temps de rassemblement pour l'effroi. Ou quand on est dans la menace et dans des jours moins bons. Ça veut dire que la louange se fait de groupe pour différentes occasions et pour différentes raisons. La louange devrait être partie prenante de chacune des assemblées qu'on a. On devrait avoir un moment en début d'assemblée et certains associent la louange strictement avec les instruments de musique. La louange à la base, c'est d'amener la lumière sur Dieu, d'amener l'attention sur Dieu, d'amener la gloire sur Dieu. Et ça se fait, oui, avec des chants, principalement, avec des chants et avec de la musique, mais la louange se fait aussi principalement avec des mots qui peuvent être dans un rythme, qui peuvent être dans une mélodie, qui peuvent être aussi accordés sous forme de poème, mais qui peut être aussi simplement de la prose qui est prononcée, donc une prière qui s'avère une louange où on rend gloire à Dieu. Dans un moment de joie, tout comme dans un moment de menace générale. Je pense que dans ce que nous faisons actuellement, on a beaucoup d'enseignements et il va nous falloir développer, travailler davantage peut-être sur des temps de louange tous ensemble. Face à la pandémie, face au confinement que nous vivons, face aux situations qui ne sont pas nécessairement faciles pour plusieurs d'entre nous, je crois qu'il va nous falloir, et j'y réfléchis actuellement, il va nous falloir travailler sur des temps de louange communs parce qu'on loue Dieu quand ça va bien, mais on loue Dieu aussi lorsque nous sommes en danger et lorsque nous sommes sous la menace. La deuxième phrase va nous amener dans un autre contexte. La première nous parlait de louer Dieu dans l'aspect collectif de la chose. Et dans le deuxième, on va se rendre compte qu'on parle en fait du moment d'intimité, de solitude et de secret dans lequel nous pouvons aussi louer Dieu. Ici, on nous dit maintenant louer Dieu ou louez-le avec le luth et la harpe. Je vais vous donner les termes en hébreu pour le luth et pour la harpe. Et ces deux instruments qui se ressemblent beaucoup. C'est des instruments qui sont à cordes et qui visuellement se ressemblent pas mal dans leur version originelle. Et voilà pourquoi très souvent, dans la traduction en français, le terme qui est utilisé pour luth, on va utiliser harpe et vice-versa. Donc le luth, si on y va dans le précis du terme hébreu, c'est le terme kinwar. Kinor plutôt, K-I-N-N-O-W-R, je répète, K-I-N-N-O-W-R, et le mot harpe et le mot nebel, N-E-B-E-L, N-E-B-E-L. Je ne vous donne pas d'autres traductions en français parce que les traductions sont vraiment luth et harpe. Et pour ceux qui n'ont pas leur Bible et qui se demandent comment on écrit luth, c'est pas L-U-T-T-E, ça c'est le combat. Là, quand on parle du luth, c'est celui qui va nous donner le terme luthier, celui qui fait le luth, celui qui fait l'armature d'un instrument à cordes. On parle de L-U-T-H. Donc ici, ce qu'on doit savoir, c'est que le luth et la harpe étaient des instruments très, très, très communs à l'époque du psalmiste. David n'était pas un musicien unique. Dans le sens où, un peu comme on retrouvait dans certaines familles québécoises il y a encore quelques décennies, le violon était un instrument commun dans la culture québécoise. Et puis très souvent, on les appelait même pas des violonistes, on les appelait des violonneux. Les violonneux, c'était tout simplement parce que c'était des joueurs de violon qui n'avaient pas nécessairement pris des cours. C'était tout simplement un don qu'ils avaient développé en côtoyant d'autres joueurs de violon et en jouant par oreille. Donc au même titre où le violon était partie commune ou partie intégrale de la culture québécoise il y a encore quelques décennies, au niveau de la culture judaïque et au niveau de la culture du Proche-Orient, le luth et la harpe étaient des instruments très répandus et les musiciens étaient aussi très répandus. On en trouvait plusieurs, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. En fait, la plupart des bergers, lorsqu'ils partaient avec leurs brebis, ils partaient pour plusieurs jours. Et pour passer le temps, le moment arrivé où les brebis s'alimentaient dans une prairie, ils avaient beau dormir un peu pendant quelques heures, quelques minutes, mais il fallait aussi passer le temps. Donc la plupart des bergers avaient un luth, avaient une harpe qu'ils jouaient. C'était un instrument commun. C'était un instrument qu'on jouait en solitaire. Et c'était un instrument que monsieur et madame tout le monde, donc le commun des juifs, le commun des croyants, le commun des mortels, savait jouer. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ça nous dit que comparativement au chauffard qu'on vient de mentionner tout à l'heure, qui était une convocation solennelle et commune, le luth et la harpe étaient quant à eux des instruments de célébration très personnels. Alors, il y avait le culte collectif qui était important, il y a la louange collective qui est importante, mais il y a la louange individuelle, la louange personnelle qui est aussi importante. Et c'est souvent quelque chose qu'on néglige. On va avoir des temps de prière personnelle, on va avoir des temps de lecture personnelle, on va avoir même pour certains des temps de silence personnel où on va tout simplement, et je parle par expérience, on va tout simplement rester assis dans la présence de Dieu et tout simplement apprécier d'être là dans la présence de Dieu en attendant si Dieu nous inspire quelque chose ou non, mais on apprécie simplement ce moment d'être là, tranquille, silencieux, dans l'introspection en la présence de Dieu. Mais de surcroît à cela, il nous faut apprendre aussi à développer des temps de louange personnels, des temps de louange où j'envoie simplement la gloire à Dieu, où je ne suis pas un directeur de chant, je ne suis pas en train de suivre la personne qui est là sur la tribune et qui me dit « maintenant on va chanter le cantique numéro un tel, puis après ça on va chanter le cantique numéro un tel », où j'y vais simplement selon l'inspiration de mon cœur et j'élève une louange à Dieu pour le célébrer moi tout seul. Et c'est quelque chose qu'on doit développer, quelque chose qu'on doit apprendre à avoir comme pratique normale et commune. Si la prière est une norme ou devrait être une normalité dans la vie du croyant, si la lecture de la parole de Dieu devrait être une normalité aussi dans la vie personnelle et dans la dévotion personnelle du croyant, le temps de louange ou prendre un moment de louange devrait être aussi tout à fait normal et tout à fait usuel dans la vie de tout croyant. Vous allez me dire, ouais, mais je chante mal. Voilà pourquoi la louange n'est pas limitée au chant, et voilà pourquoi la louange n'est pas limitée à un instrument de musique. Si vous me dites, mais moi, je sais pas jouer d'instrument. Je gratouille la guitare, mais je dois vous avouer que je la gratouille très, très, très rarement, et que mon temps de louange est essentiellement soit avec des hymnes que j'élève moi-même, voire simplement avec des paroles que je prononce et que j'adresse à Dieu. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de louer Dieu au son de la trompette, donc au son du shofar, lorsqu'il y a la convocation générale de l'ensemble du peuple, mais il est aussi important d'apprendre à inclure dans notre temps personnel de la louange que nous élevons à Dieu. Et je rappelle le terme halal de louange qui est tout simplement faire briller Dieu, faire resplendir Dieu, faire éclater la gloire de Dieu et lui présenter donc cette louange comme un honneur envers lui. On retire l'honneur qu'on prend habituellement envers nous et on dit aujourd'hui je ne m'occupe pas de moi, pour quelques instants je ne m'occupe pas de moi, pour quelques instants j'amène toute l'attention sur Dieu, toute la gloire sur Dieu. La seule chose qui me préoccupe, la seule chose qui occupe mes pensées, c'est d'élever mon Seigneur comme il lui est dû. Donc, louange collective, louange personnelle. Voilà ce que nous avons vu ce matin. Louange dans la convocation générale et louange aussi lorsque je suis tout seul, en solitaire, mais une pratique commune de tout croyant. Tout comme la plupart des jeunes garçons juifs savaient jouer la harpe et le luth, ben idem pour nous qui sommes croyants, nous devons apprendre à louer Dieu tout à fait naturellement et tout à fait communément dans nos pratiques de tous les jours. Alors voilà ce que j'avais pour vous ce matin et j'espère que ça va vous inspirer pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous amener peut-être à prendre un temps personnel de louange pour ceux qui sont en télétravail à la maison lorsque vous avez un moment tout simplement de dire « Ok, aujourd'hui je m'arrête et je vais louer Dieu. » 5, 10 minutes, 15 minutes, un peu plus si vous en avez le temps et si vous en avez la disposition. Mais simplement prendre un temps pour louer Dieu parce qu'il mérite toute la louange qui sort de votre bouche. Alors Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné. Un moment, Seigneur, où tu nous rappelles certaines bases de la louange qui sont importantes. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles l'importance de louer Dieu, de te louer communément lorsque nous sommes rassemblés, d'avoir ces temps qui sont importants pour qu'en tant que peuple, qu'en tant que famille, nous puissions nous arrêter simplement pour te louer, pour t'adorer. Mais aussi, Seigneur, l'importance de ces temps individuels, solitaire, où nous arrêtons là encore tout simplement pour te louer. Alors je prie, Seigneur, que nous puissions expérimenter l'un et l'autre. Tu vois, Seigneur, à travers le confinement, c'est probablement plus compliqué pour nous tous d'avoir ces temps communément pour te louer et t'adorer. Mais inspire-nous, dirige-nous, conduis-nous, Et donne-nous, Seigneur, des façons de te louer de façon commune, malgré la pandémie et malgré l'éloignement dans lequel, Seigneur, on est contraint. Mais aussi, Seigneur, permets-nous de développer la louange de façon quotidienne dans notre vie personnelle, lorsqu'on est seul à seul avec toi, lorsque personne ne nous voit, personne ne nous entend, lorsque nous sommes tout simplement en solitaire dans ta présence, que nous puissions aussi, Seigneur, apprendre à te louer et apprécier ce temps que tu bénis. Tu bénis le temps de louange spécifique que nous avons en commun, mais tu bénis aussi le temps spécifique que nous avons individuellement et respectivement, seul à seul dans ta présence. Alors je prie que mon frère et ma sœur puissent expérimenter un tel moment aujourd'hui et que tu les bénisses par une touche spéciale de ton onction et que tu leur permettes de ressentir ta présence. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu entends et que tu réponds encore aujourd'hui à la prière de ton peuple. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors voilà, c'était l'enseignement que nous avions pour aujourd'hui. Je vais juste retourner un peu en arrière pour saluer quelques personnes. Donc, la dernière personne qu'on a saluée, c'était Jimmy. Donc là, on salue Marie-Marthe, Andrise, Georgette. On salue Evelyne. On salue Chantal. On salue Diana. On salue mon bon ami le pasteur Georges Dabot, qui me manque énormément. Dieu te bénisse, mon bon ami. On salue Soraya. On salue Nias Queen. On salue Rosie de l'Alsace. On salue le frère Jude. On salue Yolène. On salue Marjo. Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je ne te vois pas. Content de te savoir parmi nous. On salue la sœur Claude Bergeron et le frère Daniel qui nous regardent. On salue la sœur Julie Giraldo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On salue Diane. Et puis, c'est tout pour ce matin. Donc, on se retrouve, nous, demain matin pour le quatrième verset de ce psaume 150. J'espère que vous êtes bénis, que ça vous permet de découvrir ce psaume dans des subtilités qui sont cachées dans une première lecture. Mais j'espère que vous êtes bénis autant que moi de passer ce moment dans l'étude de ce psaume cette semaine. Alors, sur ce, passez une bonne journée. Prenez du temps pour louer Dieu de façon individuelle et à découvrir les joies et la paix et le bonheur qu'on trouve à louer Dieu même seul à seul dans sa présence ineffable. Donc que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve donc demain matin, toujours 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse, au revoir tout le monde.